Moment vraiment aussi particulier à entendre trois jeunes nous partager comme ça de leur vie. Moi, j'ai jamais entendu ma fille me parler comme ça de ce qu'elle vivait. Hein, mais... Donc, il faut des baptêmes pour vivre ces moments-là. C'est rare, des moments aussi vrais. C'est quand même mieux qu'une victoire du PSG, non? Mais je vois aussi parce que nos trois jeunes reviennent de loin. Oula, qu'est-ce qu'il nous dit, Nicolas? Bon, comme l'a dit Valentin, il n'y a pas de scoop sous le tapis, il n'y a pas d'anecdotes croustillantes à sortir maintenant. Pourtant, je persiste et signe, nos trois jeunes reviennent de loin. Parce qu'il y a une scène en arrière-plan de ce qu'ils ont vécu qu'on a besoin de rejouer pour bien comprendre ce qui s'est passé ce matin, ou plutôt ce qui s'est passé avant ce matin. Et pour essayer de bien comprendre ça, les jours de baptême, j'aime bien raconter cette petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui est tombé dans un trou. Un trou suffisamment profond pour qu'on ne puisse pas s'y hisser avec les mains. Un trou avec des parois suffisamment lisses pour qu'on ne puisse pas l'escalader. Et puis, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dans un trou, mais les choses se passent comme ça. Il y a toujours tout un tas de gens qui passent au-dessus du trou et qui commente ce qui vous est arrivé. Et la première personne à passer, c'est un scientifique. Alors lui, il a estimé la profondeur du trou, il a indiqué le taux d'humidité en bas, la température, il a même calculé la probabilité que notre naufragé puisse sortir indemne de ce trou. Et puis il a continué son chemin. Ensuite, ça a été le tour d'un journaliste. Lui, il a fait descendre un micro au fond du trou. Il a commencé à interviewer notre homme pour lui demander ce qu'il ressentait, pour lui demander mais quel message il voulait transmettre au reste de l'humanité. Et puis après, il a continué son chemin pour trouver un fait divers qui ferait un peu plus le buzz quand même. En entendant notre homme gémir au fond du trou, un médecin lui a lancé deux comprimés d'aspirine. Ensuite, c'est un thérapeute qui a demandé à l'homme de s'allonger au fond du trou et de lui demander comment ses parents l'avaient prédisposé à tomber dans ce trou. Quant à la plateforme Temu, elle a rassuré notre homme. Les livraisons sont garanties en 48 heures, même au fond du trou. Un supporter du PSG l'encouragea. « Eh mon gars, on l'a gagné cette deuxième étoile, elle est aussi pour toi !» Au lieu de faire la tête, tu pourrais un peu te réjouir. Allez, nous on va sur les champs, rendez-vous l'année prochaine pour la troisième. Un lycéen s'approcha aussi. Dis-moi, ChatGPT, que faut-il faire pour sortir d'un trou? Le meilleur moyen pour sortir d'un trou, c'est de commencer par arrêter de le creuser. Et puis, d'identifier ce qui pourrait empirer la situation. Et puis, aussi consulter une IA pour demander ce qu'il faudrait faire. Mais si vous me précisez le contexte, je pourrais peut-être proposer quelque chose de plus concret. Mais vous l'avez compris, rien de tout cela ne permit à notre naufragé de sortir de son trou. Enfin, un homme passa. Lui ne dit rien. Il fit glisser une corde au fond de son trou, il descendit. Il prit l'homme sur ses épaules et le remonta à la surface. Si vous hésitez encore sur l'identité de cet homme, j'espère que la suite va vous aider à trouver la réponse. Cette petite histoire illustre en tout cas exactement ce que la Bible dit de notre situation. Pour certains, être dans un trou, c'est assez évident. La vie ne leur cache pas le problème. Addiction, problème d'alcool... Pour d'autres, c'est peut-être plus banal. Blessure relationnelle, échec douloureux. Mais pour d'autres, c'est assez difficile à cerner. En apparence, tout ne va pas si mal. Mais la Bible affirme que quel que soit notre parcours de vie, c'est comme si nous étions dans un trou avec aucun moyen d'en sortir. En fait, le langage biblique est beaucoup plus décapant que mon histoire d'homme bloqué dans un trou. Écoutez cet extrait de la Bible que je vous propose de méditer ce matin. Et on lira cet extrait passage par passage. On pourrait titrer cette première partie ce que nous étions avant. Et je vous invite à lire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 1 à 10. On lira par partie. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. On peut dire que l'apôtre Paul, l'auteur de ce passage, il ne va pas par quatre chemins. Ce que nous étions avant, morts. Pas des morts vivants, des vivants morts. C'est sans doute l'affirmation la plus difficile à admettre de toute la parole de Dieu. Elle ne pointe pas sur ce qu'on devrait faire, elle ne pointe pas sur là où nous allons après la mort, elle affirme que dès aujourd'hui, sans Dieu, nous sommes spirituellement morts. Comme des personnes qui n'ont que pour simple horizon les trous, ou plutôt les parois d'un trou. Mais de quoi parle l'apôtre Paul quand Agathe, Amandine et Valentin sont venus me voir pour me parler baptême? Aucun d'eux ne m'a dit « Écoute Nicolas, j'étais mort, et puis bah maintenant, je vis ». Si la Bible nous dit que nous sommes spirituellement morts, c'est parce qu'en fait, nous avons du mal à voir qu'en coulisses, il y a trois maîtres qui font de nous leur esclave. Et les versets que nous venons de lire nous parlent de ces trois maîtres. Il y a d'abord le monde auquel nous conformons notre manière de vivre. Il y a ensuite le chef des puissances spirituelles et mauvaises. Et enfin, il y a nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Trois maîtres font de nous leur esclave. Le monde, c'est quoi ? Ben c'est justement toutes ces propositions humaines qui se présentent à nous, comme dans mon histoire de tout à l'heure. La psychologie, la science, l'humanisme, la religion. La plupart de ces choses offrent une aide temporaire. Mais aucune ne peut donner une solution réellement efficace pour nous faire sortir de notre trou. Le prince des puissances spirituelles mauvaises, le diable. Alors oui, nos sociétés occidentales en rigolent, mais la Bible affirme que derrière notre monde bien visible se joue un enjeu cosmique qui nous dépasse. Le but du diable, c'est quoi ? Tout simplement nous tenir éloignés de Dieu. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Il peut tout autant nous enfoncer dans un trou que nous faire croire que ce trou n'existe pas. Dernier ennemi, sans doute le plus inattendu, nous-mêmes. Nos mauvais désirs. Se pourrait-il que nous soyons nos pires ennemis ? Si nous ne savons pas ce qui guide nos choix, c'est probable. Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais ? Là encore, le combat est subtil, hein ? Sans Dieu dans notre vie, nous agissons selon ce que nos désirs et nos envies nous commandent, sans avoir bien conscience où tout cela nous mènera. Voilà la triste condition humaine. Aucun espoir. Nous sommes morts spirituellement et nous nous dirigeons vers la mort éternelle. Car que peut faire un mort pour retrouver la vie ? Rien. À moins d'un miracle, il est condamné à rester mort pour le reste de sa vie. Mais Dieu, le verset 4 sonne comme un électrochoc. À partir de là, nous découvrons ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est notre deuxième point. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Pour revenir à la vie, nous avons besoin d'un miracle et Dieu a accompli ce miracle. Il nous a fait revivre en Christ. Et vous avez bien noté, ça n'est pas un futur, c'est un présent. Il nous a fait revivre en Christ. Comment a-t-il fait ça? Eh bien, en nous rejoignant dans notre trou. Puisque nous ne pouvons pas sortir par nous-mêmes de ce trou, Jésus-Christ, le Dieu éternel, s'abaisse pour que nous soyons unis à lui. Il s'abaisse jusqu'à accepter de mourir comme un vulgaire meurtrier sur une croix, afin que notre péché qui nous rendait esclaves, qui nous empêchait d'être unis à lui, soit anéanti. Et c'est ainsi que nous pouvons être hissés sur son dos et remonter à la surface. Et là, ce que nous dit notre texte est vraiment magnifique. Par notre union avec Jésus-Christ, nous siégeons les uns et les autres dans le monde céleste. Nous partageons la destinée glorieuse de Jésus-Christ. Ce n'est pas une étoile sur le maillot, c'est pas deux étoiles sur le maillot, c'est des myriades d'étoiles que nous avons dès aujourd'hui. Ce qui lui arrive, nous arrive. Son histoire devient notre histoire. Il ressuscite, nous ressuscitons avec lui. Il monte siéger à la droite de Dieu, nous sommes aussi appelés à monter avec lui. C'est incroyable quand même. Quelle grâce! J'espère que vous comprenez que nous ne pouvons en rien participer à cela. On parle d'un miracle. Nous étions morts et nous sommes désormais appelés à siéger avec Jésus-Christ. Pourtant, nous avons bel et bien un rôle à jouer. Accueillir ce miracle par la foi. Accepter que Jésus-Christ nous charge sur ses épaules. Jésus veut nous sauver, mais pour qu'il le fasse, nous devons accepter qu'il soit la seule solution. Et c'est le rôle de ce que nous venons de vivre ce matin, pouvoir affirmer clairement cela. Nous avons vu donc ce que nous étions avant, des vivants morts dans un trou. Nous avons vu ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a fait revivre avec lui. Il nous a fait sortir de ce trou. Reste à examiner ce que nous devenons en lui. Maintenant que nous sommes sortis de ce trou, c'est notre troisième point. Et c'est souvent le point le plus difficile à exprimer. En quoi Jésus a-t-il changé ta vie? Jésus m'a guéri. Jésus m'a convaincu de me réconcilier. Jésus m'a permis de me rendre compte de ce péché handicapant dans ma vie. Ok. Mais à partir de là, nous commettons généralement une erreur. C'est comme si la grâce de Dieu n'était agissante que pour notre passé. Nous comprenons que Dieu a fait sa part, mais nous en concluons que maintenant, c'est à nous de faire la nôtre. Et c'est là où les montagnes russes commencent. Et si vous avez bien écouté le témoignage de nos baptisés, c'est justement là où on se demande si on est à la hauteur pour venir devant les autres, si on est une suffisamment bonne personne. Si, 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 parce que nos chutes perpétuelles nous découragent. Mais écoutez comment Paul décrit ce processus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Voilà ce que nous devenons. Il est question d'œuvres, mais contrairement à la manière habituelle de voir les choses, cette nouvelle part n'est pas une part du contrat que nous devons réaliser. On l'a aussi entendu tout à l'heure, on est incapable de se transformer nous-mêmes. La grâce n'est pas seulement la puissance qui nous sauve, elle est aussi celle qui nous transforme. Là encore, une illustration peut-être nous aider. Imaginez que vous avez été pris en flagrant délit d'infraction au code de la route. Excès de vitesse. C'est vrai que c'est dur de respecter les limitations de vitesse sur les routes de Seine-et-Marne. On ne sait pas qui a instauré ce 80 km à l'heure en ligne droite. Et quand il est 23h le soir, on n'a qu'une envie, retrouver notre lit le plus vite possible. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois que vous vous faites arrêter pour cet excès de vitesse. Et en plus de l'amende qui vous attend, vous commencez à compter les points qui vous restaient sur votre permis. Et malheureusement, c'était les derniers. Et là, vous commencez à mesurer que les quelques kilomètres-heure en plus vont vous coûter cher. Plus moyen d'aller au travail. Vous vous êtes mis dans une sacrée panade. Et alors que vous prenez doucettement conscience des conséquences de ce petit écart, le policier s'avance vers vous et vous annonce « Allez, c'est bon pour cette fois, circulez. » Sans aucune raison, il décide de vous faire grâce. Dans un premier temps, vous hésitez, vous demandez si c'est un piège, vous avez du mal à croire la grâce qui vous est faite. Mais après, vous êtes rassuré que vous n'avez pas rêvé. Après avoir multiplié les merci, vous reprenez votre véhicule et vous poursuivez votre route avant qu'il ne change d'avis. Et j'ai une question. Comment allez-vous envisager la suite de votre voyage? Si vous réalisez vraiment ce qui vient de se passer, si vous prenez conscience de ce à quoi vous venez d'échapper, si vous mesurez la grâce inexpliquée dont vous venez de faire l'objet, vous la méritiez cette amende, vous aviez réellement dépassé les limitations, il y a de fortes chances que vous ne conduisiez plus votre véhicule de la même manière. Il y a de fortes chances que les limitations qui étaient si difficiles à respecter quelques minutes auparavant deviennent faciles à respecter. Pourquoi ? Parce que votre cœur a changé. Parce que la crainte de la sanction méritée, la perte de votre permis, le soulagement de la grâce sont passés par là et ont fondamentalement changé votre manière de voir les règles du code de la route. Eh bien, c'est ce que Jésus affirme avoir fait pour nous. La grâce dont vous avez été l'objet est devenue la puissance pour pouvoir enfin faire ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas pour autant qu'on va réussir à le faire à tous les coups, mais nous savons où aller chercher la puissance pour pouvoir nous fier et suivre Dieu. Il est temps de conclure. J'ai commencé en disant que nos trois amis reviennent de loin. J'espère que vous mesurez que ça n'est pas une boutade. Il est probable que quand tout va bien, il soit plus difficile de reconnaître que nous sommes dans un trou. Ce qui est sûr, c'est qu'il est impossible d'accepter le si grand salut que Jésus veut nous offrir sans reconnaître que nous sommes bel et bien dans une impasse. Alors si vous n'avez jamais encore considéré les choses sous ses dents, est-ce que vous reconnaissez que la chose la plus urgente dont vous avez besoin, c'est que Jésus vous rejoigne là où vous êtes, dans vos peurs, dans votre amertume peut-être, dans votre désespoir. C'est l'offre de Jésus-Christ. Nous rejoindre dans notre misère. Mourir à notre place pour prendre notre insuffisance. Et ainsi, être unis à lui, au bénéfice de sa vie et de sa victoire. Tous ceux qui acceptent cette offre de Jésus-Christ reviennent de loin, ils sont passés de la mort à la vie. Ce matin, on a entendu la décision prise par Valentin, Amandine, Agathe, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Elle me semble tellement urgente et tellement importante. Et vous, quelle est votre décision? Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la manière dont tu t'es révélé dans la vie d'Agathe, Amandine et Valentin. Seigneur, merci parce que tu les as appelés et ils ont répondu à ton appel. Ils ont reconnu le besoin de te voir agir dans leur vie. Seigneur, je te prie pour nous tous qui avons déjà pris cette décision. Je te prie que, comme on l'a médité ce matin, nous revenions sans cesse à ce que tu as fait pour nous, pour faire le pas d'après, pour savoir comment nous diriger. Je te prie pour ceux et celles ce matin qui, peut-être, ne voient pas trop ce dont nous parlons. Et je sais, Seigneur, que toi, tu agis dans les cœurs de manière qui dépasse nos mots, de manière qui dépasse nos exhortations, et que tu sais aller nous chercher là où nous avons tellement besoin de toi. Et Seigneur, je te remets encore la suite de notre journée et tout ce que tu vas faire dans la vie d'Amandine, d'Agathe, de Valentin et de chacun d'entre nous. C'est en ton nom que j'ai prié, Seigneur. Amen.